Il est 8h. Ce soir, à Jérusalem, des organisations terroristes de Gaza ont franchi la ligne rouge. Israël répondra avec force.
Benjamin Netanyahou assume déjà un conflit qui pourrait durer avec le Hamas. Et celui-ci prévient sur le même ton. Si vous répondez, nous répondrons. Si vous escaladez, nous escaladerons. Europe 1 en direct de Jérusalem, dès le début du journal. La ville sainte visée par des roquettes, une première depuis 7 ans. Il était monsieur des confinements il y a un an. Le gestionnaire se transforme en homme politique. Jean Castex parle des régionales, du climat, de la sécurité et assume quelques tacles vis-à-vis de ses anciens camarades des Républicains. Et puis, une arnaque aux faux commentaires. Sur internet, des clients achetaient sur Amazon et se faisaient rembourser par les marques en échange d'un avis dithyrambique sur leurs produits. 8h, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, émotion des forces de l'ordre, tribune des militaires, et puis l'état réel et non fantasmé, l'état réel des menaces en notre pays, rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est presque 8h02.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Il n'y a pas lieu plus sensible au monde. Un espace minuscule à l'échelle de la planète et qui concentre les tensions depuis des décennies. Nous sommes à Jérusalem-Est, dans les remparts de la vieille ville. Voici le Mont du Temple, au bord duquel se trouve le mur des Lamentations. Mont du Temple pour les Juifs, qui n'est autre que l'esplanade des mosquées pour les musulmans. Depuis quelques jours, la tension montait entre communautés, mais hier, c'est une escalade qu'on a observée. Tirs de roquettes palestiniennes, représailles de l'armée israélienne.
Bonjour Gwendoline de Bono.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Jérusalem pour Europe 1. La France craint une escalade de grande ampleur. Il faut dire qu'on compte déjà une vingtaine de morts à Gaza, dont 9 enfants.
Oui, cette opération militaire, elle a désormais un nom, gardien des murs. Cette nuit, l'armée israélienne a frappé plus de 150 cibles. Plusieurs commandants du Hamas et du djihad islamique ont été tués. Des sources palestiniennes rapportent, vous l'avez dit, des victimes civiles, dont des enfants. Alors toute la nuit, il y a eu des alertes sur les téléphones indiquant l'arrivée de roquettes dans le sud d'Israël, où les écoles sont fermées aujourd'hui. Le sud d'Israël est considéré en état d'urgence. Alors cette opération militaire israélienne, elle ne va pas s'arrêter tout de suite. L'état-major dit que ce n'est que le début. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est sur la même ligne. Dès hier soir, il a prévenu les Israéliens, ce conflit va durer.
Alors Gwendoline, pour comprendre cette montée de tension assez soudaine, il y a le contexte qui nous ramène donc à Jérusalem ces derniers jours.
Oui, même ce dernier mois, puisque ces tensions, elles durent depuis le début du Ramadan. Il y a une colère palestinienne qui s'exprime pour plusieurs raisons, des raisons profondes et puis des événements qu'ils ont vécu comme une série d'humiliations. D'abord, il y a eu une marche des suprémacistes juifs ouvertement racistes aux portes de la vieille ville. Ensuite, il y a eu la police israélienne qui a installé des barrières à la porte de Damas, qui est un point d'accès à la vieille ville où les fidèles aiment se rassembler pendant le Ramadan. Ils ne pouvaient plus le faire, ils l'ont vécu comme une humiliation. Et puis récemment, il y a eu ces familles palestiniennes menacée d'expulsion au profit de colons juifs dans un quartier de Jérusalem-Est. C'est ce dossier qui a été le catalyseur de ce mois de colère et c'est également à partir de là que le groupe islamiste Hamas s'est mêlé de la situation à Jérusalem.
Gwendoline de Bono en direct de Jérusalem pour Europe 1. Pas de réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est bloqué par les États-Unis qui estiment qu'un message public n'est pas opportun à ce stade. 8h04 sur Europe 1. Retour en France. Opération fermeté de l'exécutif après le meurtre du policier à Avignon.
Hommage national pour Éric Masson à 15h cet après-midi que présidera Jean Castex, le Premier ministre qui recevait hier soir les syndicats de policiers pour leur promettre des peines durcies pour les agresseurs de policiers ou de gendarmes. Une peine de sûreté porté à 30 ans pour les condamner à perpétuité pour meurtre d'agents des forces de l'ordre. Réaction prudente à la sortie de Matignon de Grégory Joron du syndicat Unité SGP Police FO.
C'est positif parce qu'on n'est pas habitué à avoir une prise en compte comme ça. C'est quand même aussi une marque de respect et d'écoute envers nos collègues. Alors évidemment que ça ne sera jamais suffisant, mais je pense qu'il y a des pistes. Il faut les explorer. Il y a aussi, elles sont techniques. Nous, on n'est pas des juristes, on n'est pas des professionnels. On est juste humblement des flics qui essayons de défendre les nôtres. On pense avoir un petit peu été écoutés. J'espère entendu.
Grégory Joron au micro européen de Pierre Herbulot, Jean Castex qui se démultiplie, accordant une interview ce matin au journal Le Parisien avant un 20h. Ce soir, ce sera France 2. Lui qui a parfois été décrit comme un Premier ministre 100% haut fonctionnaire est clairement en train de s'assumer comme un politique. Hélène Terzian.
Jean Castex ne veut pas être seulement monsieur déconfinement. Dans les colonnes du Parisien, le Premier ministre s'empare des questions de sécurité. Après le meurtre d'un brigadier à Avignon, d'une fonctionnaire de police à Rambouillet, deux drames qu'il juge inacceptables, il rappelle les effectifs supplémentaires de forces de l'ordre, la hausse des budgets du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Avant de lâcher, nous mettons le paquet sur les moyens en rattrapant beaucoup de temps perdu. La sécurité, l'armée, le chef du gouvernement riposte fermement à la nouvelle tribune de Militaires anonymes. Il dénonce une tribune politique d'extrême droite dont il interroge la crédibilité. Qu'est-ce qui prouve que ce sont vraiment des militaires, lui, qui dit avoir confiance dans l'armée du pays. Jean Castex à l'aise aussi dans son rôle de chef de la majorité. Après l'accord avorté avec les Républicains en région PACA, il remet une pièce dans la machine et n'écarte pas un nouveau rapprochement avec LR, parti au sein duquel les masques sont tombés, allant jusqu'à dire que s'allier avec le RN ou avec la majorité présidentielle, ce serait la même chose, enfonce Jean Castex, parti que je connais d'autant mieux, dit-il, que je l'ai quitté pour ces mêmes raisons.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1, la principale annonce du Premier ministre dans cet entretien concerne les terrasses de restaurants et de bars, limitation à 50% de leur capacité au 19 mai et pour deux semaines.
Et justement, cette réouverture des terrasses approche et les producteurs de bière se préparent. On sait que les ventes en bouteilles en supermarché ont progressé pendant les périodes de confinement, mais sans compenser évidemment la vente en fût pour les bars et restaurants.
Effervescence du côté de la brasserie Heineken de Schiltegem, d'un côté de Strasbourg, Arthur Mbaché.
Rien que dans ce camion en cours de chargement, 800 fûts de bière, de quoi remplir à partir de mercredi prochain 100 000 demi à la pression.
Vous voyez, on charge 24 palettes complètes chez un grossiste qui va le distribuer auprès des bars, des terrasses, des hôtels, etc.
Stéphane Crépel est le directeur de la brasserie de l'Espérance à Schiltegem où attendent 15 millions de litres de Fischer, Heineken et autres Desperados. 500 fûts sont remplis ici toutes les heures.
Ce que l'on a anticipé, c'est le fait d'avoir la bière qui soit à disposition. Donc on a brassé depuis un mois. Et là, l'activité, ça va être essentiellement sur la partie logistique, affûtage avec le redémarrage d'une ligne complète. L'activité pour le café, hôtel, restaurant, c'est une activité qui représente près de 40% de nos volumes sur le site. Et donc c'est éminemment important pour nous.
Important pour le leader Heineken, important aussi pour ses principaux concurrents, eux aussi implantés en Alsace. La brasserie Carlsberg qui fabrique la Kronenbourg et la 1664 et la brasserie indépendante Météor, très dépendante des cafés et des restaurants. Strasbourg, Arthur Elbaché, Europe.
Et l'économie qui redémarre prudemment ou avec dynamisme, il en sera question dans La France Bouge, émission spéciale aujourd'hui en direct de l'usine Renault de Cléon avec un invité exceptionnel, Jean-Dominique Sénard, président du groupe Renault. La France Bouge de 13h à 14h sur Europe 1. Il avait été condamné deux fois à la perpétuité pour 8 meurtres au total et il a été mis en examen dans 4 autres affaires. Des dossiers qui resteront sans procès pour Michel Fourniret, mort hier à 79 ans. Et il n'y a pas que la vérité judiciaire qui reste en suspens. On ne sait toujours pas, par exemple, où le tueur en série a enterré le corps d'Estelle Mouzin, enlevé en 2003 quand elle avait 9 ans.
Et ce matin, sur Europe 1, vous l'avez peut-être entendu, c'est le père d'Estelle, Éric Mouzin, qui est venu en direct confier son amertume vis-à-vis du temps perdu par la justice française.
Sa mort, elle est anecdotique. Je veux dire, bon, il avait 79 ans, il était malade, c'était normal qu'il meure. Bon, le problème, c'est que elle est la manifestation de toutes les erreurs qui ont été commises dans ce dossier. Et c'est la manifestation également du défaut de la justice française d'instruire ce genre d'affaires et d'une espèce de légèreté qui a été la règle vis-à-vis de ce couple. Parce que à partir du moment où ils sont arrêtés en 2003 et que les enquêteurs belges les livrent entre guillemets à la police française, on s'étonne et on s'interroge. Et vraiment, c'est quelque chose d'incompréhensible que il n'y ait pas eu une tentative de suivi du parcours de ce couple. C'était pas possible, après qu'ils aient avoué une série de meurtres en 87, 88, 89, 90, 2000 et 2001, qu'on puisse penser qu'il n'y en avait pas d'autres.
Vous avez encore espoir, Éric Mouzin, ce matin, que le corps de votre fille soit un jour retrouvé ?
Il ne faut pas se placer dans ce registre-là. Il faut mettre en œuvre tous les moyens pour la retrouver, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et ensuite, on verra. Je ne peux pas faire une construction mentale dans laquelle je vais m'enfermer.
Le témoignage sur Europe 1 d'Éric Mouzin, qui était l'invité du 5-7 de Sébastien Krebs ce matin. Voici une information qui va intéresser les près de 9 Français sur 10 qui regardent les avis des clients sur les sites internet avant d'acheter. Cela vous concerne. Et vous vous demandez s'ils sont fiables.
Clément Le Saffre est avec nous, spécialiste tech d'Europe 1. Des chercheurs en cybersécurité viennent de découvrir un réseau d'internautes payés par des marques pour donner des avis positifs sur leurs produits.
Oui, et vous allez voir, le procédé est d'une simplicité enfantine. Des marques qui vendent leurs produits sur Amazon contactent des groupes d'internautes via des forums en ligne. En échange d'un commentaire positif et d'une note de 5 étoiles, elles leur promettent des produits gratuits. Alors pour ne pas être détectés par Amazon, les internautes achètent bien les produits en question sur le site. Après livraison, ils laissent leurs commentaires dithyrambiques, évidemment. À ce moment-là, la marque les rembourse par PayPal et l'internaute garde le produit en cadeau. Tout le monde y gagne, sauf bien sûr les vrais consommateurs qui se fient, eux, sans le savoir, à de faux avis. Au total, plus de 200 000 comptes suspectés d'avis frauduleux ont été identifiés dans cette fuite. Un réseau d'une ampleur inédite, mais très difficile à détecter pour Amazon. Le géant du e-commerce emploie certes 8 000 personnes et dépense des centaines de millions de dollars en algorithmes, rien que pour analyser les commentaires des internautes. Mais à raison de 10 millions par semaine, la tâche est titanesque.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Il n'a vécu que 36 ans, mais ce jour marque déjà les 40 ans de sa mort. Bob Marley, figure absolue du reggae dont l'héritage musical est toujours fructueux aujourd'hui. Mais ce que l'on apprend avec Angèle Châtelier ce matin, c'est que les groupes de reggae de 2021 n'ont pas les mêmes intentions que le grand maître Bob Marley.
Il y a eu un énorme retour du reggae dans les années 90 avec Cissé Milia, avec Trio, avec Pierre-Paul Jacques, tous ces groupes qui se servent de l'empreinte qu'a laissé Bob Marley.
Pour Gizmo, le chanteur du groupe Trio, il y a toujours une scène reggae en France, mais elle est moins engagée.
Le reggae de Bob Marley, c'était un reggae très sociétal, politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu une musique populaire.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main.
Une musique festive, dansante, idéale pour le live. Aucun artiste de reggae n'est en tête des ventes de disques, mais ils sont en tête d'affiche des festivals, comme Trio au Printemps de Bourges ou à Garo Rock, ou en concert dans des salles prestigieuses. Dana Kill, par exemple, sera à l'Olympia en septembre. Et ça, pour Olivier Cachin, auteur de plusieurs ouvrages sur le reggae, c'est parce que leur musique est plus accessible que celle de Bob Marley.
Quand on voit un groupe comme Trio, c'est du reggae, mais c'est aussi de la chanson française. Il y a toujours du reggae français. Ça n'est pas une musique unique, mais une musique pluriel.
Et de nouvelles têtes arrivent sur le devant de la scène, comme le chanteur Naaman, presque 10 millions d'écoutes sur son tube Karma. Ou encore le groupe Rayon, qui existe depuis 5 ans et qui prévoit une quarantaine de dates en France et en Europe ces prochains mois.
Quand tu me prends dans tes bras, je n'ai plus peur, je me sens si bien près de toi. Pourquoi tes enfants ne voient-ils pas
Gaïa du groupe Rayon, voilà un peu de reggae dans vos oreilles ce matin sur Europe 1.
Il n'a vécu que 36 ans, Bob Marley. Étonnant. Oui. Incroyable. 40 ans après sa mort. Non, merci là, François Geffrier, c'était le journal de 8h. Et c'est un journal qui termine en musique. Beaucoup de musique ce matin, de Francis Cabrel à Bob Marley, en passant par le reggae français. Merci François Geffrier. 8h13 sur Europe 1. Dans un instant, Sonia Mabrouk et son invité, Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Bienvenue à vous et bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Le Premier ministre annonce un durcissement des peines pour les agresseurs de policiers et de gendarmes en tant que coordonnateur du renseignement. Est-ce que le drame d'Avignon, aussi horrible qu'il puisse être, reste un cas isolé ou bien est-ce que vous observez, Monsieur Nunez, une menace ciblée et grandissante sur nos forces de l'ordre ?
Il y a une montée en puissance, le ministre l'a dit, le Premier ministre l'a dit, il y a une montée en puissance des violences contre les forces de l'ordre qui se traduit par une augmentation des prises à partie, des refus d'obtempérer et dans certains cas, on l'a vu malheureusement à Avignon, des homicides. Donc il y a une réelle prise à partie des forces de sécurité intérieure qui augmente et donc il fallait réagir fermement. C'était ce qui était lancé dans le cadre du Beauvau de la sécurité et le Premier ministre a annoncé des mesures très fortes hier. Très très forte.
Partant du profil du suspect pour l'assassinat d'Éric Masson, est-ce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui, est-ce que vous l'observez, des profils hybrides entre trafic et criminalité, voire très grande criminalité, comme dans ce cas-là ?
Il y a, vous savez, les trafiquants de drogue ne sont pas des enfants de cœur. Il y a beaucoup de violence entre eux. Et quand les policiers, les gendarmes également, en zone gendarmerie, interviennent pour démanteler des réseaux, comme ils le font énormément, la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité. Et quand ils le font, évidemment, ils dérangent et ils dénoncent des réactions extrêmement violentes. On l'a vu dans les circonstances dramatiques qui ont entraîné la mort d'Éric Masson, pour laquelle, évidemment, pour lequel j'ai une pensée très forte ce matin, jour d'hommage national pour lui, pour sa famille pour ses collègues. Et ça traduit tout l'engagement et les dangers aussi du métier de policier.
Mais est-ce une réaction, comme vous le dites, à la lutte anti-trafic de drogue? Ou alors, et on l'observe, M. Nunez, depuis quelques jours, il y a des inscriptions qui ont été retrouvées à Paris, où il était tagué « Magnan en ville partout ». Hier, à Lyon, il était inscrit sur un mur « Balle dans le front » pour Éric Masson. Prochaine cible, brigade spécialisée du terrain du 8e à Lyon. C'est une menace directe et claire. Qui est derrière cette rhétorique?
Partout où les forces de l'ordre, et c'est-à-dire partout sur le territoire où les forces de l'ordre luttent contre les trafics de stupéfiants, on dérange, on gêne. Je l'ai vécu lorsque j'étais préfet de police à Marseille. Je l'ai vécu dans d'autres fonctions, notamment en Seine-Saint-Denis. Partout, nous intervenons et nous intervenons partout. Nous dérangeons et nous déclenchons évidemment ces réactions qui peuvent prendre la forme de violences urbaines, de prise à partie de fonctionnaires de police. Et donc partout où nous sommes présents,
oui, mais
nous
cette
dérangeons.
Rhétorique comme nous aujourd'hui, partout, nous parce que beaucoup. Vous êtes coordinateur du renseignement national, vous avez quand même une idée. Est-ce que ce sont des antifas, des black blocs qui utilisent aussi la rhétorique
non,
des terroristes islamistes maniant en ville partout?
Le renseignement français, d'abord deux choses. Le renseignement français documente ce que je viens de dire. Les services de renseignement travaillent sur les réactions à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et ce qui conduit à déclencher des violences urbaines, des prises à partie de policiers, c'est aussi l'efficacité des actions que mènent les fonctionnaires de police pour lutter contre la drogue. La question que vous posez entre le lien finalement, c'est la question directe que vous me posez, c'est le lien entre les trafiquants de drogue et le terrorisme islamique, elle n'existe pas.
Il n'y a pas de profil hybride, pas de passerelle.
Comme on peut l'entendre ici ou là. Profil hybride, il faut que vos auditeurs comprennent bien ce que ça signifie. Ça signifie que des individus pourraient financer des actions terroristes avec des actions de délinquance de droit commun, avec du trafic de stup. Financer donc du terrorisme avec de l'action de trafic de stup ou l'inverse. En réalité, ça n'existe pas, ça peut exister dans des pays étrangers, ça a pu exister dans le passé avec des groupuscules terroristes d'ultra-gauche qui finançaient leur action par des braquages, des actions de droit commun, mais ça n'existait pas. En revanche, nous sommes très attentifs évidemment à ce que les choses ne dégénèrent pas en ce sens, nous sommes très attentifs et ça n'empêche pas qu'il y a certains profils qui peuvent passer de l'un à l'autre.
Mais vous ne me dites toujours pas qui est derrière cette rhétorique.
Les Kouachi qui avaient eu des parcours de droit commun.
Mais derrière cette rhétorique, cette tag insupportable, inadmissible, infâme, qui se cache?
Ce sont des tags menaçants, des tags insultants et qui sont généralement inscrits dans les endroits, encore une fois, où l'action de la police est présente parce que, je veux le dire à vos auditeurs, les forces de l'ordre, gendarmes, policiers sont présents partout sur le territoire national.
Vous parlez aussi régulièrement, Laurent Nunez, de groupes de menaces, de groupes radicaux d'ultra-droite et d'une réelle menace. Mais à combien vous estimez aujourd'hui en France ces militants d'ultra-droite?
Mais écoutez, ce sont quelques centaines d'individus, hein, des militants d'ultra-droite, dont d'ailleurs là, on note une évolution hein, dans la mouvance avec des individus qui s'inscrivaient dans des partis d'ultra ou d'extrême droite, d'ultra-droite traditionnelle. On voit de plus en plus la mouvance évoluer vers la clandestinité et assez rapidement la volonté de passer à l'action violente. 6 groupes ont été démantelés depuis 2017, si on prend en compte le groupe néo-nazi qui a été démantelé ces jours derniers. Donc nous sommes à 6 groupes démantelés qui avaient des projets d'action violente en tête.
Mais si cette menace est aussi importante, réelle, pourquoi a-t-on 10 fois ou même plus de personnes, 10 fois moins, de personnes dans les prisons en France pour leur lien avec les réseaux terroristes djihadistes que pour leur lien avec l'ultra-droite, 10 fois plus pour les réseaux djihadistes. Pourquoi ?
D'abord, évidemment que nous avons été frappés par de nombreux attentats terroristes ces dernières années et il n'y a pas eu d'attaque de membres de la cellule ultra-droite. Toutes ces cellules ont été démantelées.
D'où ma question, est-ce que la menace est exagérée ?
Comme
l'ultra-gauche, est-ce qu'elle est réelle, comme vous
l'ultra-gauche,
le dit.
D'ailleurs, j'insiste, à la fin de l'année 2020, un groupe a été démantelé qui appartenait à l'ultra-gauche et qui voulait passer à l'action violente et qui est poursuivi pour des faits en lien avec le terrorisme. Nous ne quantifions pas les menaces. Pour nous, toutes les menaces sont importantes. Qu'il s'agisse de l'islam, le terrorisme islamiste sunnite, qu'il s'agisse de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche.
Mais est-ce que vous les hiérarchisez en fonction des victimes quand même? Est-ce
toutes
que vous
les menaces pour nous sont importantes et sont prises en compte.
En parlant d'extrême droite, Laurent Nunez, le Premier ministre qualifie ce matin la nouvelle tribune des militaires de texte d'extrême droite. Pourriez-vous nous dire quels sont les mots ou les phrases d'extrême droite dans la tribune?
Mais c'est un texte d'abord qui est anonyme, donc c'est toujours difficile de commenter un texte anonyme. Il est évidemment très politique.
Quand,
il y a une connotation.
Quand c'est signé, sont des factieux. Quand il est anonyme, ce sont des lâches.
C'est pas très courageux. On ne sait pas qui se cache derrière. Bon, donc et c'est très politique dans la mesure où tout le verbatim de cette tribune, si on veut rentrer sur le fond, encore je veux pas faire une grande publicité à ce texte. Mais quand on rentre dans le fond, on se rend compte de quoi. On nous parle d'abandon de la France à l'islamisme. On nous parle de quartiers avec des
accommodements
à la
délinquance.
On nous parle de quartiers laissés à l'abandon, de la loi du plus fort.
Et vous contestez cela ?
Mais évidemment que je le conteste.
C'est un déni de votre part ? Un aveuglement de votre part ?
C'est pas un aveuglement.
Il n'y a jamais eu d'accommodement ?
Non, nous ne sommes pas naïfs. Évidemment qu'il y a une mouvance séparatiste, islamiste, politique qui veut nous diviser, minoritaire qui veut nous diviser. Évidemment que des trafiquants de drogue veulent mettre sous une coupe réglée des quartiers. Ça existe, évidemment que ça existe. Mais évidemment que l'État n'est pas défaillant et que depuis 2017, beaucoup de moyens sont mis, avec beaucoup de résultats positifs, pour lutter à la fois contre le séparatisme, le terrorisme et à la fois contre le trafic.
Mais est-ce que ça vous choque qu'ils aient parlé de guerre civile ? Est-ce que pour vous, c'est un langage d'extrême droite ? La guerre civile qui couve.
C'est exciper une menace qui n'existe pas. La guerre civile, c'est l'affrontement d'un camp contre un autre. La République française est une et indivisible. Il n'y a pas un camp contre un autre dans notre pays.
Et pourtant,
il y a
Monsieur
des individus Nignes. Qui commettent des infractions. Il y a des individus qui veulent prôner la dominance d'une loi religieuse et qui conduit vers un séparatisme que nous combattons. Et ces gens sont une minorité qu'il faut combattre. Et en menant ces actions, nous voulons d'abord protéger ces quartiers.
Pas de risque d'affrontement, dites-vous. Et je reprends, c'est la rhétorique de cette tribune, guerre civile. Pourtant, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, après les attentats du 13 novembre, le patron alors de la DGSI, Patrick Calvar, devant la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, affirmait, et je cite, je prends sa phrase mot pour mot, « Nous sommes au bord d'une guerre civile ».
Non, Patrick Calvar visait quelque chose.
Est-ce que ce sont ces mots qui ont été prononcés?
Oui, je n'aurais pas prononcé moi-même le mot de guerre civile.
Très bien, mais ils ont été prononcés par quelqu'un qui n'est pas accusé d'extrême droite.
Ce que visait Patrick Calvar, et il a d'ailleurs, il faut lui rendre hommage, il a d'ailleurs organisé la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, que j'ai dirigée, pour ne jamais négliger les menaces provenant des mouvements ultras. Parce qu'il disait, Patrick Calvar, attention, la montée en puissance de la menace terroriste, et a fortiori quand des actes terroristes islamistes sunnites sont commis, peut conduire certaines parties de la population extrêmement minoritaires, et il pensait évidemment à l'ultra-droite, peut les conduire à mener des actions de représailles. Ils vont se sentir finalement légitimés par ce qu'il se passe.
Ça s'appelle un affrontement qu'elle a pointé, cette tribune dit la même chose.
Ça s'appelle du terrorisme. Donc c'est pas d'affrontement, c'est du terrorisme. Ils peuvent conduire une minorité de personnes à passer à l'action violente pour se prémunir d'une menace terroriste islamiste sunnite. C'est ce que voulait dire Patrick Calvar. Et c'est pour cela que les services de renseignement sont organisés pour suivre ces mouvances, les détecter et les entraver comme
important.
Cela a été
mais
fait ces dernières années.
Mais est-ce que vous conviendrez, M. Nunes, ce matin qu'en cas, et évidemment, personne ne l'espère qu'en cas de très vive tension dans le pays, une réflexion sur une intervention de l'armée sur le territoire national n'est pas une hypothèse farfelue ni totalement taboue.
D'abord, l'intervention de l'armée, elle existe, elle prend la forme de sentinelle, ce sont des opérations de sécurisation, dont je note d'ailleurs qu'ils ne vont pas dans les quartiers. Et quand je lis ça dans la tribune, la fameuse tribune, que certains militaires, une minorité forcément, expliquent que les forces sentinelles ont vu des choses dans les quartiers, c'est juste pas possible parce qu'ils ne vont pas dans les quartiers.
Ils ont aussi leur regard de citoyens.
Nous avons donc des forces de l'ordre qui sont présentes sur le territoire national, qui assurent des missions de sécurisation, et les missions de sécurité publique, de lutte contre la délinquance et de maintien de l'ordre public, ce sont les forces de sécurité intérieure qui le font, elles le font très bien.
Non mais je ne parle pas de l'opération Sentinelle. S'il y a de très vives tensions, est-ce que vous avez un scénario sur la table, et vous faites partie du renseignement d'intervention de l'armée totalement encadrée évidemment, et avec l'accord du pouvoir, évidemment.
Les forces armées sont là pour nous protéger, assurer des missions de sécurisation et nous protéger aussi à l'extérieur du territoire. Elles le font remarquablement.
Et
c'est pas un scénario dans lequel,
sur notre sol.
Ce n'est pas un scénario dans lequel je veux me placer. Encore une fois, tous ceux qui nous divisent, que ce soit par des théories politiques qui visent à prôner la supériorité d'une loi religieuse, tous ceux qui veulent nous diviser par des actions de délinquance, de mise en coupe réglée de quartier pour le trafic de stupes, nous luttons contre ces personnes et nous n'aurons jamais un camp qui affrontera l'autre.
Ça, c'est l'aspect politique. Mais de manière factuelle, permettez-moi de vous soumettre, ainsi qu'à nos auditeurs, ce qui est écrit dans ce document que j'ai entre les mains. Il s'agit d'une lettre du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhard. Une lettre adressée, Laurent Nunez, en avril 2020 au chef d'état-major des armées dans le cadre de l'opération Résilience. Des extraits avaient été d'ailleurs publiés dans Valeurs Actuelles. Il est dit, dans le paragraphe, les missions de l'armée de terre, un appui aux forces de l'ordre n'est pas à exclure. Si la situation sécuritaire le nécessitait, l'armée de terre serait alors en mesure d'exécuter ses missions avec les difficultés et les risques associés si la situation venait à se durcir. Donc l'hypothèse qu'évoquent ces militaires n'est pas farfelue.
Non,
ce sont vos scénarios sur la table.
Écoutez, ce qui est totalement farfelu, ce sont les conditions du déclenchement d'eux. Je ne les partage
mais
pas.
Le fond,
nous ne sommes pas au bord d'une guerre civile. C'est complètement faux. La réalité de l'action, ce sont des forces de sécurité intérieure qui mènent une lutte déterminée pour éradiquer le trafic de stupéfiants des quartiers. Il n'y a pas de quartiers qui sont laissés à l'abandon. Et c'est une lutte déterminée de nos services de renseignement, de nos forces de sécurité, avec tous les acteurs de la société, pour lutter contre le séparatisme islamiste qui n'a pas sa place dans les quartiers et qui n'a sa place nulle part en France. C'est ça la réalité.
Merci Laurent Nunez d'avoir en tout cas répondu à toutes nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Marion Calais pour l'info dans un instant. La météo de Laurent Cabrol avant de retrouver le docteur Jimmy Mohamed. C'est le programme sur Europe 1, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Les dernières heures ce mardi du procès de Nordal Lelandais devant la cour d'assises de Chambéry. Marion Dubreuil, vous suivez les audiences pour Europe 1. L'accusé encourt 30 ans de prison, même s'il conteste toujours avoir voulu tuer Arthur Noyer il y a 4 ans.
Oui, jusqu'au bout, Nordal Lelandais a maintenu sa version des faits, une bagarre qui a mal tourné. Il a une nouvelle fois présenté ses excuses à la famille d'Arthur Noyer. Mes excuses, ils les entendent, mais ils ont du mal à les écouter, j'en suis bien conscient. C'est donc des coups et violences volontaires sans intention de donner la mort que ces trois avocats vont devoir plaider cet après-midi, bien loin de la thèse de l'accusation qui estime que Nordal Lelandais a tué le caporal Noyer parce qu'il avait refusé ses avances sexuelles. Entre les deux versions, la peine encourue varie du simple au double, 15 ou 30 ans de prison. Maître Jakubowicz le sait, il va devoir convaincre les jurés que Nordal Lelandais n'est pas cet homme froid, dénué d'empathie, inaccessible aux remords. Il va devoir convoquer toute l'humanité de son client pour montrer qu'il est sur le chemin de la rédemption, un exercice particulièrement difficile, alors que les experts psychologues et psychiatres se sont succédés à la barre hier pour dire qu'il dissimulait la vérité sur la nuit du meurtre d'Arthur pour ne pas s'effondrer.
Marion Dubreuil a Chambéry pour Europe 1. Attendu également ce mardi les conclusions de la mission d'inspection diligentée après le féminicide de Mérignac, une femme brûlée vive la semaine dernière par son mari. Il faisait pourtant l'objet d'un suivi après une condamnation pour violence conjugale. Rendez-vous dans 8 jours maintenant pour la prochaine étape du déconfinement avec de nouvelles précisions apportées ce matin par Jean Castex. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, le Premier ministre annonce que les terrasses ne pourront ouvrir dans un premier temps jusqu'au 9 juin qu'à 50% de leur capacité. De nouvelles conditions qui compliquent un peu plus la donne pour ce restaurateur parisien.
Ça va être engagé pas mal de moyens pour du coup pas grand chose quoi. Si on peut mettre que je sais pas 10 ou 15 personnes en terrasse au lieu de 20 ou 30, ça risque de changer la donne. Ou alors on va essayer de s'adapter avec nos clients pour qu'ils mangent à des horaires différents, dans d'autres sortes de timing quoi. C'est faire venir plus de personnel, engager plus de moyens. Donc maintenant vous me dites que du coup on va faire 50% de ça, ouais c'est on doit tout repenser quoi.
Jadre, gérant du restaurateur Le Petit Thaï à Paris avec Pierre Herbulot pour Europe 1, Jean Castex. Castex défend une sortie progressive de la crise sanitaire, mais la tendance est claire. Nous touchons au but, ajoute-t-il. Jean Castex, attendu cet après-midi à Avignon, hommage national à Éric Masson, ce policier tué la semaine dernière lors d'une opération sur un point de trafic de drogue. Le Premier ministre qui a reçu hier soir les syndicats de policiers et annoncé un durcissement des sanctions à l'encontre de ceux qui s'en prendraient aux forces de l'ordre, Louis Dragnel.
Oui, un objectif pour Jean Castex, montrer les muscles et le faire savoir. Avec notamment une mesure forte, l'instauration d'une peine de sûreté de 30 ans pour un crime commis contre les forces de l'ordre. Ça veut dire concrètement un alignement sur les peines encourues par les auteurs d'actes terroristes. Jean Castex compte aussi limiter les possibilités de réduction de peine et punir plus fortement les refus d'obtempérer sans donner plus de précision. Le Premier ministre veut abroger le rappel à la loi. Désormais, les amendes forfaitaires et les travaux d'intérêt général seront encouragés. Enfin, un observatoire de la réponse pénale sera créé, mais c'est un organisme qui existait déjà au début du quinquennat avant d'être supprimé par Emmanuel Macron. Sur le papier, des annonces fermes, mais qui méritent d'être précisées, ce sera l'objet d'un projet de loi défendu par le ministre de la Justice. L'enjeu pour Jean Castex est avant tout politique, montrer qu'il reprend personnellement en main les questions de sécurité et de justice et éviter que sur ses préoccupations, la droite et l'extrême droite apparaissent plus crédibles que la majorité actuelle.
En précision signée Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. 130 frappes cette nuit dans la bande de Gaza. L'armée israélienne dit avoir tué 15 membres de groupes armés palestiniens. Israël visé par des tirs de roquettes hier soir après des affrontements dans la journée d'hier sur l'esplanade des mosquées. Un développement jamais vu depuis 20 ans. Le boom des énergies renouvelables à travers le monde, plus 45% de capacité de production entre 2019 et 2020, porté notamment par l'éolien en Chine. Chiffre communiqué ce matin par l'Agence internationale de l'énergie.
Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 8h30. Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et la sécheresse n'est plus qu'un souvenir. En Ardèche, il est tombé 250 litres d'eau au mètre carré. À Saint-Étienne, 85. À Lyon, 87. Et il va en tomber encore 60 dans le Vivarais dans le courant de la journée. Nous aurons encore pas mal de pluie, même beaucoup de pluie, puisqu'il y a des orages sévissent à l'heure où nous parlons sur l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône. Et il y aura énormément de pluie dans le sud et dans l'est de la France, région Rhône-Alpes, mais aussi Provence, Alpes, Côte d'Azur. La Corse est touchée maintenant. Bref, le danger est là pour les orages sur la Haute-Loire, la vallée du Rhône. Bref, disais-je, eh bien, nous allons vivre une journée encore bien pluvieuse. Sur la partie ouest, c'est un petit peu moins agité et un petit peu moins humide. Sur le littoral de la Manche, la région parisienne, où on peut penser que les pluies seront rares. Dans le sud-ouest, le Languedoc, le Roussillon, le Poitou-Charentes. Le vent souffle fortement, les températures baissent 15 à 18 degrés. Et puis, on se demande si ça va durer. Oui. Alors là, les prévisions ne sont pas très optimistes, je dois vous le dire, chers amis. Les Saintes Glaces se terminent le 13, donc dans deux jours. Déjà, j'ai retrouvé des vieux dictons qui disaient que ma mère, Servais et Pancras, les trois Saintes Glaces, eh bien, étaient bel et bien là jusqu'au 13 mai, mais qu'il y a un certain Saint-Urbain qui les tient dans la main. Ça, c'était le dernier dicton que j'ai trouvé. Et Saint-Urbain qui les tient dans la main, il est du 25 mai. Enfin, à l'époque, il était au 25 mai.
Oh là là.
Bon, alors. Donc, si j'en crois à Saint-Urbain, ça va aller jusqu'au 25 mai.
On est pas prêt de manger des tomates.
Oh, je suis malheureux parce que j'ai pas le droit de rire. Parce que franchement, maintenant, ça devient insupportable. On a un congé d'ascension qui arrive et on est là avec notre Saint-Urbain dans la main. Voilà. Je vous laisse.
Voilà, merci Laurent Cabrol. Certains en avaient besoin aussi de cette humidité, soulignons-le. Merci Laurent.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour docteur, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les matins, notre santé. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé le lancement d'un nouvel indicateur, le Toxiscore. En quoi est-ce que cela consiste ?
Alors, vous connaissez sûrement le Nutri-Score qui permet de classer les aliments de A à E en fonction de leur valeur nutritionnelle. Eh bien, le Toxi-Score, c'est un nouveau label qui permet de signaler les produits ménagers les plus toxiques. Alors, pour le moment, les informations pour élaborer ce Toxi-Score ne sont pas connues, mais l'objectif est simple, c'est de prendre en compte les risques pour l'environnement liés à l'utilisation de ces produits, mais aussi les risques pour votre propre santé. Car si on est honnête, eh bien, on se rend compte que les étiquettes des produits ménagers sont souvent très complexes et on ne connaît pas toujours les bonnes précautions d'emploi. Le principe, c'est donc d'avoir une information transparente sur certaines précautions à prendre, comme par exemple la nécessité de porter des gants de protection ou bien d'aérer une pièce après chaque utilisation.
Oui, parce que jusqu'à présent, il faut avoir un doctorat pour les comprendre, ces étiquettes. Alors, on se doute que certains produits ménagers peuvent être dangereux, bien sûr. À quel point est-ce qu'ils peuvent être toxiques pour notre santé ?
Alors, dans un premier temps, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, de bien ranger vos produits ménagers et qu'ils ne soient surtout pas à portée des enfants. Mettez-les, si possible, en hauteur ou bien fixez des blocs-portes. Autre conseil, même si ça paraît évident, je préfère le rappeler, l'une des premières causes d'intoxication par ingestion est due en fait au transfert d'un produit ménager dans un récipient prévu par exemple pour des boissons. Concrètement, ne mettez pas de l'eau de Javel contenue dans un bidon, dans une bouteille d'eau vide que vous laissez traîner dans la salle de bain, car un enfant pourrait facilement les confondre. Je vous rappelle un chiffre, 25% des intoxications dues à des produits ménagers touchent des enfants de 1 à 5 ans. Pour le reste, de nombreuses études ont montré que les produits ménagers du quotidien, comme des produits vaisselle, de la lessive ou même des sprays pour les vitres, pouvaient contenir des substances chimiques provoquant des allergies, des irritations et même des symptômes respiratoires. Et tout ça, sans parler des risques de brûlure, notamment en cas de mauvaise utilisation.
Alors ce Toxiscore, il ne sera ni obligatoire, ni mis en place avant 2022. On a un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle ?
Disons qu'avec la crise du Covid, on se rend compte qu'on a tendance à vouloir tout nettoyer, désinfecter en permanence. Et vous avez même d'ailleurs de nombreux produits qui revendiquent de pouvoir détruire le coronavirus. Alors moi, je vous conseille de limiter la quantité de produits ménagers à la maison. En règle générale, un seul produit est largement suffisant pour désinfecter toutes les surfaces. Pour le reste, contentez-vous de choses toutes simples, comme de l'eau et du savon, ou bien même du vinaigre ou du bicarbonate de sodium qui peuvent remplacer vos détergents, les décressants ou même les produits d'entretien. Et en plus de ça, ce sera bon pour la planète car beaucoup moins polluant.
Merci Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed qu'on retrouve tous les matins sur Europe 1, notre santé, qu'on retrouve à 15h aussi, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Notre planète à 8h40, Fanny Agostini est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, ce matin vous nous parlez de procréation médicalement assistée, de PMA, oui, mais pour les plantes.
Oui.
À La Réunion, la culture in vitro se fait désormais pour les végétaux aussi.
C'est bien vrai, et c'est une méthode qui date de l'avant-guerre. Elle est utilisée en agriculture, en arboriculture ou en horticulture, et elle permet de régénérer des plantes en voie de disparition dans des bocaux en verre. Dans cet environnement stérile, en fait, elles se nourrissent d'un mélange de macroéléments comme les nitrates, le potassium ou le magnésium, et d'éléments complémentaires comme les vitamines, et on peut les dorloter ainsi pendant très longtemps dans des conditions qui leur évitent toute contamination par une espèce envahissante ou toxique. Et une fois que les plantes ont prospéré en milieu in vitro, on les expose petit à petit au monde in vivo, c'est-à-dire le monde extérieur, en les plantant dans du terreau sous serre. Cette étape d'acclimatation est vraiment indispensable avant de pouvoir les réimplanter en milieu naturel.
Bon, en fait, faire du in vitro avec les végétaux, c'est la même chose qu'avec les animaux ou les humains ?
Alors, pas exactement, Mathieu. On va faire un petit peu de biologie ce matin. Pour faire grandir un animal, par exemple, en méthode in vitro, on a besoin de cultiver des cellules souches, celles qui fondent toutes les cellules de notre corps. La plupart des cellules souches vont après se spécialiser définitivement pour donner un organe bien, bien particulier, bien spécifique. Et certains végétaux ont quant à eux un petit truc en plus. Leurs cellules sont dites totipotentes, un bien gros mot pour dire qu'après s'être spécialisées, les cellules de ces végétaux peuvent revenir à l'état initial, c'est-à-dire à l'état de cellules souches pour reconstituer l'individu complet. Vous avez peut-être déjà vous-même expérimenté la chose. Mettre en terre un bout de plante, eh bien, ça suffit parfois à la faire pousser tout entière.
Oui, c'est la technique du bouturage un peu poussée là, avec cette méthode in vitro pour les végétaux révolutionnaires, Fanny, pour les protéger.
Alors je dois dire que c'est un réel atout qui évite de prélever toute la plante dans son milieu naturel, mais juste un petit bout pour la multiplier. Une parcimonie nécessaire pour protéger certains végétaux qui disparaissent bien plus vite que les espèces animales. Faut dire que depuis le XVIIIe siècle, près de 600 plantes se sont éteintes, c'est-à-dire à peu près 3 par an, un rythme beaucoup plus effréné que certains grands mammifères. En revanche, la conservation in vitro pour ces végétaux n'est pas du tout la panacée. C'est une manière d'acheter du temps en attendant de limiter la disparition des plantes en s'attaquant de front à ces causes qui sont, on le sait, l'artificialisation des sols, la déforestation et l'introduction d'espèces invasives.
Merci Fanny Agostini. Notre planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1, bien sûr, 8h43. Dans un tout petit instant, on les retrouve. Nicolas Canteloup avec Julie, la revue de presque sur Europe 1.
Bon. Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu.
Oui, bonjour Julie, bienvenue bonjour. Sur Europe 1. Europe 1, superbe émission très, très musicale, vous l'avez noté ce matin, du Bob Marley, du Francis Cabrel, deux oui. chanteurs cultivateurs. Un cultive des salades, l'autre les fumées. Deux salles, deux ambiances. Oui, Julie, j'ai reçu Francis Cabrel ce matin. Je vous rassure, pas en garage, hein, en studio.
Mais ça m'aurait pas dérangé, cher Mathieu. Quand j'ai moi-même une deux chevaux. Pas la voiture, hein, la calèche avec deux chevaux pour partir en tournée, chanter mes chansons de troubadour dans les Medio Agio, Moyen-Âge. Qui sont les rockstars du Moyen-Âge, les troubadours.
Oui, merci Francis. Ça fait du bien de parler à Francis Cabrel et de faire ce bond en arrière quelque part dans les années 50. J'étais pas né, mais ça devait être sympa. Allez, l'info du jour. L'info du jour, Julie, c'est la mort, on l'a appris, de Michel Fourniret. Alors qu'on ne sait toujours pas où il enterrait le corps d'Estelle Mouzin. On était avec son papa en interview avec Sébastien Krebs et on ne sait pas où il enterrait le corps et le corps des autres victimes. Mais écoutez, mon analyse, c'est que ça arrive à tout le monde, un petit oubli, une absence
oui,
où j'ai foutu mes clés, où j'ai foutu mon portefeuille, le corps de mes victimes. Bon, foutu Alzheimer. Allez, et puis l'autre info. Allez, plus j'ai senti que ça avait parlé là-dessus.
Ouais.
Allez, l'autre info. Et ouais, les gars, vous ouvrez
enchaînez,
le parapluie.
Oui.
Hein. Ouais, on sait jamais ça. Alors, l'autre info, ce sont les bars et restaurants qui ne pourront ouvrir leurs terrasses qu'à 50% de leur capacité.
Et j'entends
Laurent Cabrol qui fait « Ah, ça l'intéresse ». Il va y avoir autant de places en terrasse à Paris que de places pour se garer à Paris.
Ah bah dis donc,
les amateurs de bibines vont être aussi maltraités que les automobilistes. Bravo à Nidalgo, franchement.
Merci Mathieu. Allez, on revient sur cet horrible personnage tristement célèbre, Michel Fourniret, qui est donc mort à l'âge de 79 ans. Bonjour, Éric Dupond-Moretti.
Voilà madame, alors j'entends que la justice est trop lente madame, que la réponse pénale est insuffisante madame. Eh bien la justice est passée, vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Oui. Le tueur en série Michel Fourniret n'est plus, madame.
Oui, mais enfin, il est juste mort de vieillesse, sans doute, à 79 ans.
Écoutez, ne jouez pas sur les mots, madame. Il est mort, c'est bien là l'essentiel. Vous êtes en train de faire le jeu du Rassemblement National, madame. Oui, ça n'a rien à voir, mais en ce moment, j'aime bien marteler cette phrase que vous faites le jeu du Rassemblement National, car je suis en campagne politique contre Marine La Peste, madame.
Ah, Marine La Peste, c'est nouveau, ça. Alors, en droit français, le décès arrête la procédure judiciaire, hein, c'est ça ?
Le décès, dites-vous, arrête la procédure judiciaire.
Normalement.
Mais madame, sachez que le décès arrête beaucoup d'autres choses aussi.
Oh bah oui,
le décès arrête aussi les parties de golf à Marrakech. Le décès arrête les balades en bateau sur le lac de Côme. Arrête les parties de poker. Pardon, tout cela ne fait pas très loisir de gauche.
Non, pas trop, non. Alors, quelles sont les autres conséquences de ce décès de Michel Fourniret ? Monsieur Dupond-Moretti.
Autre conséquence du décès de Michel Fourniret, la première d'entre elles, c'est que Monique Olivier est célibataire.
Oui, bon.
Je ne sais pas si elle aura un gros succès sur Tinder. Allez, la bonne journée, je repars dans le Nord, madame, car je ne sais pas si vous savez, mais je suis candidat contre Marine Le Pen. Et ne souriez pas, car vous faites le jeu du Front National.
Oh là là, on sait, oui. Allez, merci beaucoup.
Rassemblement National, je m'y ferai.
Allez, bon courage à vous, monsieur Dupond-Moretti. On parle beaucoup forcément de François Mitterrand cette semaine avec l'anniversaire de son élection. On va l'évoquer avec une femme qu'il a bien connue. Bonjour Ségolène Royal.
Oui. Écoutez, il y avait longtemps.
Il y avait longtemps.
Oui. Non, je précise que je l'ai bien connue en tout bien, tout honneur. Je suis d'ailleurs une des rares. Pourtant, j'étais une bombasse à l'époque. Vous vous souvenez, mais franchement, parlons franc. Oui. Hein, on va pas se mentir, il n'aimait pas que les ortolans, tonton. Oui. Vous voyez ce que je veux dire.
Oui, on voit.
Ah, on a offert des roses, le bachelor de Solférinon.
Ségolène Royal, quelle est la qualité principale que vous lui reconnaissez à Mitterrand ?
Bon, écoutez, sans aucun doute, c'est le féministe que je retiens. Hein, c'était un précurseur. Dans son gouvernement, rappelez-vous, dans son gouvernement, sur 25 ministres, il prend deux femmes. Hein, deux femmes sur 25, c'est un signe fort. Hein, bravo François Mitterrand.
Ah non, c'est pas énorme, hein, 2 sur 25. Ça ferait quoi en pourcentage, ça, d'ailleurs ?
En pourcentage, 2 sur 25, ça fait... Oui. Donc ça fait 4 fois 2... Ça fait 8, voilà, ça fait 8%. Oui, je calcule 8. Alors oui, j'en utilise l'économie. Alors 8%, c'est un peu en dessous de 50%, nous sommes d'accord.
Oui.
Mais bon, faut replacer. Écoutez, franchement, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. Hein, on était en 1981, les hommes sont des salauds et fiers de l'être à l'époque, alors qu'en 2021, les hommes sont toujours des salauds, mais certains ont un peu honte. On a quand même énormément progressé.
Énormément, oui. Alors, c'était un homme à femme, hein. C'est vrai, on lui a prêté des liaisons avec forcément Anne Pinjot, bien sûr, mais aussi avec Dalida, Elisabeth Tessier, voilà ce qu'on dit.
Ce qu'on dit, moi j'ai les preuves. Je pense que c'est en partie dû au prénom François, toutes ces aventures.
Ah bon ?
Écoutez, vous prenez un socialiste complexé par son physique médiocre. Médiocre. Vous lui donnez un peu de notoriété, il va se prendre pour Tom Cruise, à coup sûr. Hein.
Il a été le premier aussi à nommer une femme Premier ministre, Edith Cresson.
Oui. Et elle a été tellement nulle qu'elle a dégoûté tout le monde pour les 50 ans à venir. Merci Edith. Hein. C'est grâce à toi s'il n'y a plus jamais de femme Premier ministre.
Oh là là, bon écoutez, on embrasse Edith Cresson.
Oui, faut dire
et vous aussi.
Aux gens.
Oui, on vous embrasse aussi. Merci, à bientôt. Valeurs Actuelles a publié une deuxième tribune de militaires. Bonjour Philippe de Villiers.
Ouais, alléluia, taillot, sus à la racaille, halte au margoulin. Bonjour à toi, femelle.
Bonjour.
Et bravo. Moi, je dis bravo, militaires qui ont pris la plume pour sonner le tocsin quant à l'état de la France et toi, pitoyable, dans lequel se retrouve notre pays, la France, aux portes de la guerre civile, entre les honnêtes gens à cravate et la ribaudaille en survêtement et à capuche. Et oui, la guerre civile est proche. Alléluia, youpi.
Bah, comment ça, youpi, la guerre civile ? Non, mais ça va pas.
Mais évidemment, femelle, ça fait des années que je rêve de revêtir l'armure de mes ancêtres et de leur rendre hommage enfin, en allant batailler dans la cité des 4000 de Mantes-la-Jolie avec mon épée luisante que je tiens à mes côtés, mon casque rutilant sur mon destrier fougueux accompagné par mon palefrenier Francis Lalanne.
Par contre, Francis Cabrel, non, moi j'y vais pas. Moi.
Oui, mais je m'en fous, moi ça a sarclé. Quelle virtuose. Ça a sarclé dans les halls d'immeubles. Taillot, mon joie, par le Christ rédempteur, oh, j'irai faire le ménage dans les caves de la cité Alfred de Musset.
Oh là 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 là, cette tribune souffle sur les braises, vous ne trouvez pas?
Mais c'est ce que je te dis et je m'en réjouis. Tu sais, quand on annonce une guerre civile, c'est en général qu'on en a envie. Et j'en ai envie, moi aussi. Pour cela, regarde, je me suis même laissé pousser une grande moustache.
Mais quel rapport, une moustache?
Mais pour faire comme Charles Bronson, dans Le Justicier dans la ville.
Oh là là.
Et alors, c'est la qualité, c'est la vraie moustache. Hein, c'est pas les trois poils sous le nez qu'arborent les goudous moustachus.
Hein, oh là, non, mais arrêtez, s'il vous plaît.
Ah ben là, c'est du don, c'est de l'épée. Amis à moustache, joignez-vous à moi, à nos jeunes militaires, et ensemble, allons mener la bataille. Je suis d'accord avec cette tribune. La France est gangrénée par la violence, et rien de tel que de souffler sur les braises de la guerre civile pour empêcher la violence.
Oh là là, bon, c'est bon, c'est fini.
C'est un peu con ce que je viens de dire, non? Faut que je révise.
C'est bon, on va vous laisser là, Philippe Devilliers.
Je pense qu'il a pété un câble.
Ah oui, on est d'accord. Il a battu le record.
C'est pour ça que je tiens loin de toute cette ébullition.
Ah Francis, restez parisienne. Dans votre sud-ouest. Ben. Ouais. Allez. Il a battu le record d'audience de CNews grâce à la présence de Michel Sardou sur son plateau. Tout de suite, on retrouve Pascal Praud.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros, merci de nous suivre, d'être aussi fidèles. Et tout d'abord un grand merci, un grand merci à Michel Sardou qui nous a permis de battre un record. Pardon Jean Messia, non pas le record d'audience Jean, non je voulais parler d'un autre record. Nous entrons dans le Guinness Book car, tenez-vous bien, grâce à l'ami Michel Sardou, nous avons fait l'émission la plus de droite du monde, c'est ce qui se dit. Et ça, grâce à l'ami Michel, on le remercie. Tiens, d'ailleurs, comme je sais qu'à Europe 1, vous traversez une petite période un peu difficile, je vais vous faire un petit cadeau, je vais augmenter votre audience en appelant en direct sur votre antenne d'Europe 1, Michel Sardou.
Ah bon? Bon, bah allez-y.
Et voilà.
Ça, c'est la sonnerie, ça.
Allô, Michel Sardou, j'écoute.
Ah, bonjour, cher Michel, heureux de vous entendre. Je pensais être sur votre répondeur. C'est Pascal Praud, ça va?
Ben, tu me demandes si ça va. Bien sûr que non, ça va pas. Je m'emmerde. Je suis merdé dans ce pays. Cette société m'emmerde, voilà. On peut plus fumer, on peut plus boire, on peut plus rouler vite. Enfin...
C'est pas faux. Là, 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 on vient de faire... Écoutez, amis d'Europe 1, on vient de faire exploser l'audience. Europe 1 passe devant France Inter après les propos de Michel Sardou. Et en plus, Michel... C'est vrai qu'on ne peut même plus regarder la télé, il passe en boucle en ce moment des images de Mitterrand et de la gauche.
Ah non, ça j'aime bien. Moi j'aime bien Mitterrand, tu vois, je vais te surprendre. Parce que Mitterrand, il aimait le théâtre, tu vois. Et moi j'aime bien le théâtre. Mon père jouait au théâtre.
Attention Michel. Michel, vous avez tenu des propos de gauche, là, en disant que vous aimiez Mitterrand. Ça chute, la courbe d'audience se casse la gueule. Oh là là, on est obligé de se quitter, Michel. Un texto de Daniel Guichard. Quel gauchiste ce Sardou. Il a pas tort, Daniel. Allez, on vous embrasse à tous. Salut, cher Julie.
Salut, Pascal Praud. Et le texto de Daniel Guichard, toujours.
Matinée musicale, Daniel Guichard, Michel Sardou, pour terminer.
On a Bob Marley.
Francis Cabrel, Bob Marley, tout est possible. Merci Nicolas Cantelou, merci Julie. Et à demain, bien sûr, pour une nouvelle revue de presque 9h-11h. C'est Culture Média qui va démarrer. Mais Philippe Bandel est en studio. Bonjour Philippe.
Salut Mathieu, notre info média du jour. On va parler de la chaîne LCI jusqu'au Rassemblement National, du journal Marianne jusqu'au Modem. Pourquoi les journalistes s'engagent-ils en politique? On le voit avec les régionales. Réponse avec la journaliste qui s'était engagée en politique avec Ségolène Royal, Françoise de Degoy et puis l'historien Alexis Lévrier, auteur d'un livre sur le pouvoir et la presse. Au sommaire également, on parlait du documentaire Mitterrand à la télévision. Ce soir sur France 2, on sera en compagnie de son réalisateur, celui qui a filmé au plus près le président socialiste. Il était même son conseiller image. Je parlais du cinéaste Serge Moati. Et puis enfin, peut-être le plus grand photo-reporter au monde, le brésilien Sebastião Salgado, qui sera avec nous pour parler d'un livre absolument formidable. Ça s'appelle Amazonia, 530 pages, des photos sublimes et aussi une immense exposition à la Philharmonie de Paris dès le 20 mai avec la musique de Jean-Michel Jarre.
Eh bien j'écouterai Philippe Vandel, Culture Média, de 9h à 11h, c'est sur Europe 1, la matinée qui continue bien sûr. Pour ma part, je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.